Bonjour, je suis Charlotte et à travers ce podcast, je vous propose de découvrir la saison 2 de notre aventure juillet. En route vers notre été invincible, nous rencontrons sur notre chemin des personnes exceptionnelles. Parce qu'elles osent, parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles assument ce qu'elles sont et parce qu'elles nous inspirent, nous avons envie de vous les présenter. Alors venez avec nous et savourons ensemble un instant juillet. Pour ce 27e épisode, nous recevons Aymeric Houdin. Aymeric est un chef d'entreprise engagé. Il dirige Axe Environnement, une entreprise située à Romilly-sur-Seine, mais est également président national du Centre des jeunes dirigeants, le CJD, un réseau rassemblant plus de 5200 chefs d'entreprise. Et si nous avons choisi de l'inviter sur l'instant juillet, c'est qu'il fait partie de ces chefs d'entreprise inspirants qui ont à cœur de mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Par son engagement au CJD, Aymeric explore des idées, tente des expérimentations, mais remet en question les manières d'agir pour bâtir des entreprises plus responsables, plus durables et plus agréables, alors finalement pour avancer différemment. Après cette pandémie, mais également les bouleversements que notre société connaît aujourd'hui, la perception du travail, on le sait, est totalement modifiée. Et les aventures entrepreneuriales deviennent des aventures de vie et se mêlent avec des sujets essentiels comme la transition écologique ou les liens sociaux, mais parfois aussi philosophiques comme la quête de sens ou le chemin pour être soi. Alors c'est un podcast fondamental pour nous aujourd'hui parce que nous allons découvrir un homme que nous ne connaissons pas encore, mais avec qui nous partageons la passion de l'autre et de la rencontre. Alors je suis impatiente de vous présenter Aymeric, le temps d'un instant juillet. Aymeric, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité sur l'instant juillet. Alors je viens d'expliquer rapidement l'envie que nous avions de te rencontrer et d'échanger avec toi. Mais pour être sincère, je t'ai découvert grâce à une interview que tu as accordée durant le confinement et qu'une amie que nous avons en commun m'a transmise avec un petit clin d'œil. Tu devrais l'inviter sur ton podcast, il est juillet. Alors parce que dans cet entretien qui m'a passionnée, c'est vrai, tu parles d'entreprise désirable. Et je ne connaissais pas du tout ce concept, mais évidemment ça m'a beaucoup parlé. Alors pour moi, de ce que j'en ai compris, une entreprise désirable, c'est un projet qui implique un risque et qui oblige à relever des défis avec l'objectif toujours de se construire, d'agir pour l'autre et puis de se rencontrer soi pour ne jamais se satisfaire de ce qui est bien, mais plutôt de ce qui est meilleur. Est-ce que tu valides ma définition ?
Oui, c'est une belle définition que de l'entreprise désirable, mais au-delà d'un concept, l'entreprise désirable, elle est plutôt une mission. Et on le voit bien aujourd'hui, ce qui nous encourage en tous les cas à parler d'entreprise désirable ou de désirabilité de l'entreprise plus exactement, c'est pour faire face notamment aux pénuries de recrutement ou à l'arrivée des nouvelles générations. Une entreprise ne fonctionne que par la qualité des collaborateurs qui la composent. Et donc partant de ce principe-là, on se dit mais quelle est la première responsabilité en tous les cas du chef d'entreprise pour arriver à attirer les talents? Et selon nous, selon moi, et au CJD on y travaille beaucoup, c'est comment est-ce que l'on cultive la désirabilité de nos entreprises pour faire en sorte de cultiver cette part de préférence qui fait qu'un collaborateur va plutôt venir dans nos entreprises que dans une autre.
Mais du coup ça change totalement, je trouve, en tout cas la vision qu'on peut avoir de l'entreprise, en tout cas classique ou comme elle était dans les années 80 avec l'image du self-made man ou du grand chef d'entreprise qui gagnait beaucoup d'argent avec son entreprise et qui finalement mettait peu en avant ses équipes. En tout cas, on a l'impression qu'il était seul dans sa réussite et que c'était des gens brillants. Aujourd'hui, finalement, la richesse de l'entreprise, c'est les équipes. C'est les hommes que tu arrives à manager ou à faire évoluer dans ton entreprise.
Oui, on parle plus de... Dans les RH, nous, on parle de richesse humaine plutôt que de ressources. Tu vois, les RH, c'est une vraie richesse. Et moi-même, j'ai pu l'expérimenter dans mon entreprise. Et puis toutes les entreprises, d'ailleurs, l'ont expérimenté. Un bon chef d'entreprise ne peut pas vous dire que la réussite de sa boîte, et encore la réussite est tout à fait subjective, mais que la réussite, en tout cas le succès d'une entreprise, ne dépend pas que de lui. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas dans aucune entreprise. Le succès de l'entreprise dépend de la qualité du manager, en tous les cas, à pouvoir... faire en sorte de s'entourer des meilleures compétences pour pouvoir conduire à un projet. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que pour attirer les compétences, il faut aller chercher le projet. Et on vient parler de mission, d'entreprise à mission, j'y reviendrai tout à l'heure.
Oui, c'est ça, parce que du coup, aujourd'hui, on le voit, la personne qui veut s'investir dans une entreprise ou qui décide de postuler dans une entreprise, elle ne va pas regarder uniquement le salaire ou l'activité de l'entreprise, mais elle va vouloir adhérer à des valeurs, à une communauté, après c'est peut-être exagéré de dire une famille, mais finalement de se sentir adhéré à l'entreprise au-delà d'être simplement salarié, quoi.
Effectivement, on se rend compte que le salaire, c'est une déterminante dans la capacité de désirabilité d'une organisation. Par contre, ce n'est pas le premier critère de choix d'une entreprise ou d'une organisation. L'entreprise est humaine avant tout. L'entreprise se veut être un des derniers lieux de vivre ensemble. On a pu s'en rendre compte ces deux dernières années quand le Covid est arrivé. Un des derniers lieux où l'on arrive à créer du lien social avec un impact sociétal très fort, c'est l'entreprise. Et donc, ce rôle-là, on le prend à bras-le-cœur, en tous les cas au CJD, on le cultive depuis 84 ans maintenant. C'est ce qu'on appelle la performance globale, donc la performance sociale d'une entreprise, la performance sociétale et la performance environnementale. Et on se rend compte que ces trois critères conduisent à la performance économique et pas l'inverse. La performance économique d'une entreprise n'arrive ou n'a de sens, en tous les cas, que si ces trois critères de performance sociale, sociétale et environnementale sont réunis. Et donc, cette performance sociale, elle est hyper importante. C'est-à-dire que plus vous créez les conditions qu'un collaborateur puisse se lever le matin avec la pêche pour pouvoir venir au boulot, eh ben, plus vous arriverez à avoir les collaborateurs qui correspondent à votre organisation et puis à créer l'environnement qui aille bien. Gagner de l'argent aujourd'hui pour venir au boulot avec la boule au ventre, ça n'a pas de sens. En quelque sorte, on parle de burn-out sur un certain nombre d'organisations diverses et variées qui ne prennent pas en considération ces critères-là. C'est ce qu'on va appeler après les nouveaux critères de performance et choses sur lesquelles il faut évoluer, mais de manière générale.
Mais ça, c'est super important pour nous parce que justement, au moment où nous, on se lance dans une entreprise événementielle, on s'est beaucoup questionné sur le secteur. Et justement, avec cette crise Covid, on avait le temps aussi de se questionner sur ce qu'on voulait faire du secteur et comment il allait être bouleversé. On a entendu beaucoup pendant la crise que le digital allait prendre sa part, etc. Au final, bon, c'est pas trop notre angle. Nous, on croit vraiment justement au lien et à la rencontre entre les gens. Et ce que tu es en train de dire, finalement, ça me fait plaisir. Mais ça, c'est vraiment ce qui nous porte aussi, c'est de se dire que le lien entre les personnes, la cohésion, les valeurs que porte l'entreprise, c'est essentiel pour la performance de l'entreprise. Ce qui veut dire que créer des événements, la convivialité, c'est pas futile. C'est pas quelque chose d'accessoire. C'est vraiment stratégique pour l'entreprise.
C'est au cœur de notre préoccupation, en tous les cas de la mienne. Et ça dépend des valeurs. Si tu parlais tout à l'heure d'un patron de 1980, dont les valeurs, en tous les cas, les critères de performance pouvaient être complètement différents. On sortait des 30 glorieuses avec des enjeux différents, avec une politique différente et où le seul indicateur de performance d'une société était lié à sa capacité à générer du PIB, donc du produit intérieur brut, c'est-à-dire de l'économie. C'est encore le cas aujourd'hui. Nous, on lutte beaucoup au CJD pour arriver à faire évoluer ces indicateurs de performance. Pour arriver à inspirer la société avec un grand S, on prend notre responsabilité, nous, en tant que chef d'entreprise, de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour évoluer ce prisme et faire en sorte d'arriver à trouver des nouveaux indicateurs de performance. Et finalement, quand tu réfléchis un petit peu, l'économie est une artificialisation de la vie. Depuis les 70 000 dernières années où le sapiens est arrivé et s'est structuré, à chaque fois qu'il s'est structuré, où l'économie est arrivée, elle est arrivée pour arriver à améliorer le confort des uns et des autres. Donc elle est au service de l'homme avec un grand H depuis son origine. Et on a dérivé au fur et à mesure des années, puisque l'indicateur de performance était devenu l'argent, c'est-à-dire l'accumulation des richesses, parce qu'on a pensé, à un moment donné, le profit financier. L'accumulation des richesses et du profit financier rendait épanoui, rendait heureux. Et aujourd'hui, on fait le constat inverse, depuis longtemps d'ailleurs, parce qu'il y a plein de chefs d'entreprise des années 80 dont tu parles, qui ne sont pas très heureux,
bien sûr,
qui sont morts pas très heureux,
exactement.
Mais avec plein d'argent dans leur compte en
des
banque.
Des grosses voitures et tout.
Ouais, c'est ça. et moi, je suis aujourd'hui bien placé aussi pour le savoir. C'est que ça a pu être une motivation hein, quand j'ai décidé d'être chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, avec le temps, ça a considérablement évolué et ça fait poser plein de questions philosophiques autour de l'organisation de nos entreprises, du moteur de nos vies en général. Et donc, on arrive vite à de la philosophie.
Ouais, mais c'est un vrai sujet pour nous parce que justement, on arrive nous en milieu de vie, la quarantaine, et on a une carrière professionnelle finalement confortable et toute tracée. On a fait des études, on a des carrières brillantes, soit dans un grand groupe, soit dans une collectivité territoriale avec des postes de direction, etc. Tout va bien, c'est cool. Maintenant, au milieu de cette vie confortable, est-ce qu'on est épanoui? Est-ce que la mission que l'on mène donne du sens à nos vies? Est-ce que c'est ce à quoi on a envie de consacrer la suite de notre carrière? Et donc, c'est là où on se dit, non, en fait, on a envie de créer notre activité, de faire quelque chose qui nous porte sur nos valeurs. Et donc, nous, voilà, on est sur l'événementiel et pour vraiment faire en sorte de valoriser la rencontre et d'essayer de démontrer aux entreprises que la rencontre et l'adhésion de leurs salariés et le convivial est vraiment stratégique et important pour eux. Et bah, c'est une prise de risque énorme parce qu'en fait, parfois, on a dans notre entourage des gens qui peuvent penser que c'est pas du tout raisonnable de faire ça, en fait, parce qu'on prend un risque et qu'on quitte un confort.
Oui, et ce qui va être intéressant, j'ai pas de statistiques, mais je suis à peu près convaincu que ces mêmes gens qui trouvent ça bizarre de ne pas mettre l'humain au centre de leurs préoccupations sont les mêmes gens qui viennent se plaindre de leurs difficultés à recruter. Et donc... Et donc, c'est déterminant, mais c'est évident, en fait, parce que dans les organisations, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, si tu as une bonne raison de savoir à quoi tu sers au monde, en quelque sorte, tous les matins de venir dans ton entreprise en disant « Aujourd'hui, je vais sauver la planète parce que c'est ce qui m'anime tous les matins » et que le manager se tient à le répéter tous les jours et puis à co-construire sa stratégie avec ses collaborateurs et à impliquer ses collaborateurs dans son management, eh bien, tu vas développer un vrai sentiment d'appartenance dans l'organisation. Et c'est ce qui manque à la fonction publique, c'est ce qui manque à beaucoup d'organisations, c'est ce qui manque à toutes les organisations qui se plaignent aujourd'hui d'arriver à avoir des difficultés de recrutement pour les grands, plus grands distributeurs pétroliers, sans pointer du doigt qui que ce soit. Mais ces gens-là ont des problèmes et ont bien intégré qu'ils allaient avoir des problèmes dans les années futures pour pouvoir devenir désirables. Et donc aujourd'hui, vendre du pétrole n'est plus très à la mode. Qu'est-ce qu'on fait pour faire évoluer ça et pour arriver sur des modèles vertueux ?
Mais après, ça veut dire qu'il faut oser cliver aussi. C'est-à-dire que quand on a une entreprise avec des valeurs qui nous représentent ou qui nous portent, qui soient incarnées par le chef d'entreprise ou par l'équipe dirigeante, peu importe, ça veut dire qu'elle peut aussi déplaire. Mais de faire le deuil, de dire je n'attire pas tout le monde, mais en tout cas ceux que j'attire, ils adhèrent à mes valeurs et je construis l'entreprise et je fais ça avec eux.
C'est clair. Après, je pense que le clivage n'est pas forcément le bon terme, c'est plutôt le rassemblement autour des valeurs. Et je crois que tous les gens, tout à chacun, ne peut que admettre le fait qu'ils ont ressenti les plus grosses émotions, les plus grandes émotions de leur vie dans les relations humaines. Peu importe les conditions matérielles, peu importe d'aller partir dans le plus bel hôtel du monde, si tu y vas tout seul, je pense que tu garderas de bien meilleurs souvenirs à y aller avec une bande de copains dans l'hôtel le plus pourri du monde.
On l'a dit récemment, même à Vierzon, si t'es avec des gens bien, tu
mais
peux...
Même à Vierzon, mais c'est clair, et je m'associe à ça complètement, et vivement Vierzon, avec mes potes, avec tous les gens qu'on aime.
Ouais.
Parce que c'est ça, en fait, la vie. Et l'entreprise a vraiment un rôle ici pour arriver à rassembler autour de ça et cultiver cet esprit de famille, comme tu disais tout à l'heure.
Et alors, du coup, toi, est-ce que dans ce parcours-là et dans ce questionnement que tu as et aujourd'hui dans ta gestion d'entreprise, est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré ou des personnes qui t'ont guidé sur ce chemin-là ?
Énormément. J'ai énormément de personnes qui m'ont guidé, avec lesquelles j'ai travaillé, des personnes que j'ai lues. Je pense comme ça, quand tu me poses la question, à la première personne que j'ai rencontrée quand j'étais au CJD, c'est Xavier Fontanet, qui est l'ancien patron d'Essilor, par exemple, qui t'explique combien il a mis en place justement ses valeurs avec une mondialisation, avec un essor du développement des verres de lunettes partout dans le monde, notamment en Inde, avec l'impact très fort, en fait, du fait d'apporter des paires de lunettes à des gens qui n'ont pas les moyens d'en avoir. Et donc forcément, tous les matins, quand tu œuvres et que tu viens non pas fabriquer un verre de lunettes, mais que tu viens sauver ou améliorer considérablement la vie des petits-enfants qui vont à l'école et qui retrouvent la capacité à lire, bah, tu ne te lèves pas du même pied, quoi. Et donc, Xavier Fontanel expliquait bien. Et après, j'ai croisé plein de gens au fur et à mesure de ma carrière et de mes rencontres dans le cadre de ce réseau notamment, qui m'ont inspiré dans un sens comme dans un autre, parce que j'ai rencontré aussi beaucoup de capitalistes excessifs qui croyaient avoir raison et qui croient toujours d'ailleurs avoir raison et qui m'ont fait... me conforter.
C'est ça, mais c'est intéressant aussi, effectivement, parce que souvent on a ça aussi, des contre-modèles, c'est-à-dire quelqu'un dont on voit que sa vie, on ne veut pas du tout ça, donc en fait il faut oser faire l'inverse, prendre des choix différents parce qu'on ne veut pas se laisser en fait emporter par un truc qui n'aurait plus de sens pour nous. Donc les contre-modèles, c'est utile aussi pour ce qu'on souhaite.
Oui, absolument, et merci à eux, mais je leur souhaite bon vent.
Oui, c'est ça.
Mais je leur souhaite surtout qu'ils puissent évoluer, parce que là où après je deviens un peu plus vindicatif, c'est sur les excès justement de ce capitalisme et de cette surconsommation qui nous conduit à des excès planétaires, qui fait d'ailleurs partie de nos deux grandes ambitions de ces 2 ans de mandat qu'on est en train d'achever au CJD, qui est l'excellence écologique et économique. Et j'ai encore croisé des grands chefs d'entreprise il n'y a pas très longtemps qui se foutent royalement de l'impact planétaire, même s'ils y sont contraints. Moi, j'ai la conviction que ce n'est pas par la contrainte que l'on arrivera à changer le monde, mais c'est bel et bien par les convictions justement. et qu'il est nécessaire d'intégrer l'impact de l'ensemble de ses activités sur l'écosystème.
Mais alors là, c'est au cœur de ton activité d'entreprise, parce que alors du coup, j'avoue que je n'ai pas du tout regardé. En plus, je ne connais pas l'activité dans l'entreprise. Ben non, ce n'est pas bien, mais j'aime bien pas savoir avant de rencontrer quelqu'un.
C'est bien aussi.
Mais donc, elle s'appelle Axe Environnement en entreprise. Ouais. Donc, j'imagine que c'est en lien avec l'environnement. Du coup, c'est quoi?
Belle déduction.
Ouais, je suis intelligente.
Je ne dirais pas jusque-là, Charlotte, mais c'est une belle déduction. Non, mais bien sûr, Axe Environnement, moi, je suis originaire du milieu agricole.
Okay.
Donc, je suis dans l'Aube. Et Axe Environnement, c'est une entreprise que j'ai rachetée en 2008, qui déploie, qui développe, qui conçoit des solutions pour la mise en conformité des exploitations agricoles.
D'accord.
Donc en fait, on vend des équipements de protection pour les agriculteurs et les viticulteurs, et puis des systèmes de protection de l'environnement pour le traitement des eaux usées. Donc c'est une PME de 18 collaborateurs, okay. Et on travaille sur toute la France, beaucoup avec la viticulture. Et on acte et nos actions, notre mission en tous les cas, c'est de faire en sorte d'améliorer ou de préserver la santé des utilisateurs de produits potentiellement dangereux dans les exploitations agricoles avec des opérations potentiellement dangereuses également.
Donc fort enjeu environnemental clairement sur à la fois le milieu agricole mais du coup la santé, nous,
ouais.
Les gens qui produisent.
Fort enjeu sur l'activité directe, donc ça donne beaucoup de sens. Après, la préoccupation que j'ai et que nous avons aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait encore pour réduire l'impact de nos activités nous, sur l'environnement. On utilise beaucoup de plastique. On utilise beaucoup de matières transformées, ce qui génère beaucoup de problèmes aujourd'hui par rapport aux instabilités tarifaires. Mais et comment est-ce qu'on fait évoluer notre modèle sur des modèles de fonctionnalité? C'est ce qu'on appelle aussi l'économie de la coopération et de la fonctionnalité pour faire évoluer nos modèles plutôt que de vente de matériel vers plutôt de la vente de services. Et la vente de services vient créer de la valeur quelque part, vient contribuer à la croissance en quelque sorte, entre guillemets. Mais comment est-ce que je fais pour continuer à créer de la croissance tout en utilisant moins de matières?
Oui.
Et ce n'est pas simple, mais c'est une dynamique que l'on met en place au CJD sur la dynamique de la performance globale dont on parlait tout à l'heure pour essayer d'aborder ce prisme environnemental.
Et ce qui est intéressant finalement avec ton engagement au CJD, c'est que du coup, tu vas rencontrer des chefs d'entreprise ou des dirigeants qui ne sont pas du tout dans ton domaine d'activité, mais qui finalement vont avoir les mêmes questions ou les mêmes engagements, on va dire, globaux et que ça te permet de progresser sur ton activité.
C'est juste ça qui est incroyable au CJD en particulier ou dans d'autres réseaux, mais en CJD en particulier parce qu'on a des valeurs qui sont des valeurs très fortes de la solidarité, de la responsabilité, le respect de la dignité humaine et qui font qu'on se rassemble tous. Et moi, j'ai toujours adoré voir mon vendeur de photocopieur arriver ou l'industrie chimique dernier cri qui arrive et puis finalement de se retrouver autour d'une table ou dans une salle. Et on se rend compte que mêmes enjeux, mêmes emmerdes, quoi. La fiscalité, le social, le sociétal, l'environnemental, tout ça, ce sont des sujets qui reviennent et qui sont communs à tous les chefs d'entreprise, en quelque sorte.
Ouais, mais c'est quelque chose que nous, on adore dans notre activité, alors qu'évidemment, qui n'a rien à voir hein, sur l'événementiel, mais on rencontre tout type d'entreprise et qui font de l'événementiel des choses différentes en fonction de leur activité ou de leurs besoins, etc. Et c'est vraiment intéressant de voir comment ils peuvent se retrouver sur des problématiques de cohésion d'équipe dans des activités totalement différentes et avec des niveaux, on va dire, de salariés, que ce soit des cadres ou des ouvriers, ou totalement différents. Et pour autant, c'est toujours les mêmes questionnements, les mêmes problématiques sur la cohésion. Je trouve ça très intéressant parce que dès qu'on touche finalement les valeurs humaines,
On se ressemble tous et ce qui devient intéressant, c'est qu'il y a des techniques aussi. Et c'est ça qu'on vient apprendre notamment au CJD. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans le management de mon entreprise pour arriver à utiliser les bons outils. Je pense aux outils de l'intelligence collective. Comment est-ce qu'on arrive à co-travailler une stratégie? Je te donne un exemple sur l'innovation, par exemple. Il y a quelques mois, je m'étais dit, tiens, dans mon entreprise, on est un petit peu faible en innovation. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je vais embaucher quelqu'un pour s'occuper de l'innovation du matin au soir? Et en réfléchissant tous ensemble, on s'est dit, mais finalement, l'innovation, elle n'appartient à personne. L'innovation, elle peut venir du magasinier qui, tous les matins, fait le même travail, mais pourrait être très force de proposition avec une vision complètement fraîche sur le marché, comme du commercial ou comme du client. Et donc, en fait, la stratégie d'innovation, elle a plutôt intérêt à intégrer des parties prenantes ou ce qu'on appelle maintenant les parties consistantes de l'entreprise dans le cadre de l'entreprise à mission pour arriver à faire en sorte de cultiver cette innovation et de trouver les meilleures idées.
Alors, tu as combien de salariés dans ton entreprise?
On est 18.
Ça commence déjà à être...
Moi, j'ai racheté cette boîte, on était 5 et donc on a progressé, on était plus que ça. Aujourd'hui, on est sur une taille intermédiaire qui reste une petite taille, hein, mais avec son lot de contrariétés.
Avec des vraies questions majeures, t'as 18 personnes déjà, il y a des vraies questions.
À 18, on est obligé de mettre des râteaux en place et donc d'arriver à avoir un management intermédiaire. Et voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein, dans mon parcours entrepreneurial sur le management de mes équipes en pensant bien faire. Et finalement, la proximité, l'écoute, on m'a souvent dit que j'écoutais mais j'entendais pas, ou j'écoutais pour répondre. Et ça, c'est un des écueils sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, où les formations du CJD sur le développement personnel, en l'occurrence, nous font progresser sur ces sujets-là. Et je pense que la meilleure écoute, c'est ce qu'on appelle l'écoute active, c'est la capacité à intégrer, non pas écouter pour répondre, mais écouter pour entendre. Et moi, j'ai progressé là-dessus et finalement, ça a aussi du bon dans l'accompagnement des équipes sur le fait qu'elles se sentent entendues. C'est pas parce qu'on les entend qu'on va forcément dire la même chose qu'elles, mais par contre, le fait d'intégrer ce que les équipes nous disent, c'est hyper important. Et j'ai souvent occulté ça et puis ça m'a mis, tu vois, ça fait 14 ans que j'ai racheté mon entreprise et au bout de 14 ans, je commence à avoir une équipe vraiment stable. Ça fait 3-4 ans que j'ai plus de turnover.
Malgré la crise, là, qui a fait beaucoup de turnover. Enfin, je trouve que la pandémie, on le voit beaucoup. Ça avait beaucoup de turnover dans les entreprises. Parce que du coup... Ouais. Donc malgré ça, du coup...
Ouais, malgré ça. Ce qui est assez rigolo, en fait, dans ce que tu m'évoques, c'est que le confinement a eu lieu le 13 mai ou le 15 mars, quelque chose comme ça, 2020. Et on a mis tout le monde en télétravail puisqu'on n'avait pas eu le choix. Ouais. Et en fait, ça a duré 24 heures parce qu'au bout de 24 heures, les gens s'ennuyaient chez eux. Nous, on a eu beaucoup de boulot en fait pour le Covid, ça nous a apporté beaucoup d'activité. Et au bout de 2 jours, ils ont dit, mais attends, il y a énormément de boulot, on vient à la boîte, quoi, il n'y a aucun problème, on va faire attention, mais on veut être ensemble, déjà parce que déjà, ça m'intéresse beaucoup plus de voir mes collègues, c'est quand même beaucoup sympa.
Parce que ça fait partie aussi du bonheur au travail, quoi.
Mais c'est même pas que ça fait partie, je pense que c'est une déterminante dans la capacité à venir. Et nous, on entretient ça, en fait, c'est des petites techniques, mais toutes bêtes, mais on boit l'apéro au boulot, et puis on est content de manger ensemble, on a pris un rituel tous les vendredis, on fait une bouffe tous ensemble, et à tour de rôle, c'en est un qui organise ça, tous les anniversaires, on amène des croissants. Et puis on prend le temps de cultiver surtout cet esprit d'équipe. On a emmené les gens en séminaire il n'y a pas très longtemps. On a emmené les gens en séminaire à Vierzon, ça leur fera d'excellents souvenirs par exemple.
Et bah pour ça, il faut nous demander, on peut le faire.
Tu peux le faire, parfait. mais c'est chouette parce que tu reviens de ces jours de travail en commun où tu crées de l'intimité. Ça, j'ai appris ça au CJD.
Mais c'est super important.
La performance d'un groupe dépend de la capacité que tu as à créer de l'intimité.
Mais c'est sûr, mais par contre, qu'il soit pas fausse, quoi. C'est-à-dire de vraiment faire la démarche, de te dire, je m'investis dans mon travail sincèrement et pleinement. Et je fais de mon travail un vrai moment de vie où je suis entièrement présent.
Ouais, c'est clair.
Et on a trop souvent, enfin moi, alors ça c'est mon point de vue, hein, trop souvent différencier ça, c'est-à-dire voilà, il y a mon travail, il y a ma vie personnelle, il y a et finalement c'est pas vrai, c'est tout est lié. C'est-à-dire que là, enfin les techniques que tu dis de développement personnel ou la façon dont tu as progressé pour mieux gérer ton activité, je suis certaine que dans ta vie personnelle, ça compte aussi et que ça t'a fait évoluer aussi à ce niveau-là et que ça t'a aussi fait poser des questions sur, je ne sais pas, la façon dont tu peux gérer une association, dont tu peux élever tes enfants. Enfin, je ne sais pas, j'imagine que c'est...
Ça génère d'autres écueils. C'est-à-dire que... j'y reviendrai si tu veux bien, mais... Évidemment, en tous les cas, cette performance humaine, elle est essentielle. Il n'y a pas une vie à la maison, il n'y a pas une vie au boulot. De toute façon, tu le vois tous les jours et chacun de nos auditeurs, de tes auditeurs le voit. C'est que tes problèmes que tu as à la maison, tu ne les occultes pas en claquant la porte de ton bureau, quoi. Ça reste tes problèmes. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Et comment est-ce que je fais, moi, en tant que manager, pour me préoccuper tous les jours de savoir dans quel état de santé mentale sont mes collaborateurs ? Un collaborateur performant ou un collaborateur efficace ou qui vient avec plaisir au boulot, doit aussi avoir réglé ses problèmes. Et comment est-ce que moi, je peux jouer un rôle tout en restant à la bonne place, mais comment est-ce que je peux faciliter les conditions en tant que manager pour faire en sorte qu'il puisse exprimer ses problèmes. Et puis peut-être que l'entreprise peut aussi avoir un rôle dans sa capacité à lui vider la tête ou à l'aider ou à l'accompagner.
En étant souple sur des horaires, en accordant du temps.
Voilà, après, tu as plein de sujets sur la semaine de 4 jours, qui est un sujet qui anime plein de monde en ce moment, où on a sorti un papier il y a quelques mois de ça dans le journal du dimanche, où on est très interviewé là-dessus, parce qu'on encourageait à la semaine de 4 jours, qui est un des outils d'innovation managériale, qui n'est pas l'outil en tant que tel, mais oui, moi, en tous les cas, chez moi, dans ma boîte, les gens sont hyper autonomes. Et l'autonomie, ça demande d'avoir de la confiance. Et la confiance, ça demande de ne pas avoir de contrôle. Je déteste cette phrase qui est de dire « la confiance n'évite pas le contrôle ». Ce n'est pas vrai. La confiance, c'est la confiance. Soit tu fais confiance à un collaborateur et tu as des indicateurs de performance qui sont ailleurs sur la capacité, sa capacité à travailler globalement et à effectuer sa mission. Soit tu n'as pas confiance et là, tu mets du contrôle. Mais si tu mets du contrôle, ça veut dire que tu n'es pas dans un management bienveillant, tu es dans un management qui est plutôt enfermant, où tu as peur. Et donc après, c'est à toi, en tant que dirigeant, de travailler sur tes peurs. De quoi tu as peur? Qu'est-ce que tu fais pour arriver à outrepasser ces peurs et puis finalement mettre tes indicateurs de performance qui soient ailleurs que juste sur le travail, quoi.
Ça, c'est ce qui est un peu expliqué dans le livre qui a fait polémique, mais que nous, on a adoré lire en tout cas, qui est le livre de Netflix, La règle, pas de règle. Je ne sais pas si tu as lu.
J'ai pas lu ça, non.
En fait, c'est le dirigeant de Netflix qui a sorti un ouvrage où il explique comment il travaille la densité de talent au sein de son entreprise. Alors, quand on est Netflix, c'est sûr que c'est plus évident d'avoir une densité de talent. En tout cas, c'est plus... c'est une entreprise qui est désirable, qui est attractive. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il montre à quel point d'avoir arrêté le contrôle, en tout cas d'avoir simplement fait confiance et à son personnel, a augmenté la performance de son entreprise. Et même parfois, de laisser le personnel le contredire, d'autoriser à ce que finalement le manager puisse se tromper parce qu'il n'est pas à la base, il n'est pas en relation clientèle, c'est pas celui qui est sur le terrain et finalement, il ne perçoit pas forcément le marché toujours de manière juste. Et donc, d'autoriser aussi si tous les salariés, en tout cas la majorité de son équipe, lui dit écoute, on devrait tenter ça, même si tu n'y crois pas vraiment, je pense que pour la boîte on devrait le tenter, de se dire ok, vous êtes majoritaire, je suis pas plus brillant que vous sur ces questions là et
ouais,
okay.
Bien sûr, c'est le droit à l'erreur en fait, ou le droit à l'expérimentation.
C'est ça,
on aime plutôt tourner ça de façon positive. Et on sait qu'on n'a pas raison, on est bourré d'incertitudes et on sait qu'on aura raison une fois qu'on l'aura fait, mais si on ne le fait jamais, on ne le saura pas. Et donc l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on cultive ça et comment est-ce qu'on cultive cet esprit. J'ai des collaborateurs qui font des erreurs, mais en fait, moi, j'en ai fait des tonnes avant eux, donc je ne peux pas leur reprocher d'en avoir fait. Et j'accueille ces erreurs et on déploie ensemble. Et ma première, en tous les cas, et ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est le premier réflexe, c'est de toujours prendre ça sur le prisme de ma part de responsabilité. On a une part de responsabilité dans tout. Et quelle est ma part de responsabilité dans le fait que mon collaborateur ait fait une erreur? Est-ce que je n'ai pas suffisamment été disponible pour lui? Est-ce que j'aurais dû lui donner des instructions plus précises? Est-ce que j'aurais dû le faire à sa place? Enfin, tu vois, il y a toujours une part quelque part. Et donc, une fois que tu assumes ta part, forcément, tu es dans un management qui est un peu mieux... un peu plus bienveillant, en quelque sorte, et plus vertueux.
Et puis, la personne à côté de toi, elle va peut-être plus oser et donc te proposer des choses qu'elle n'aurait peut-être pas... Il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à innover ou en tout cas qui loupent un marché ou un coche sur une activité hyper concurrentielle parce que finalement, les salariés n'osent plus dire les choses et en tout cas, elle est trop lourde en termes de protocole. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais...
Ouais, de processus, ou alors de contrôle, encore une fois, tu vois, tu parles de contrôle ici. Et donc, il faut savoir lâcher prise. Par contre, c'est un travail difficile, c'est facile à dire, tu vois, comme ça.
Oui, hein. Exactement. Mais puis alors, moi, je dis ça, je n'ai pas de salarié. Hein, donc...
Ouais. Et moi, pareil, ça m'a mis beaucoup de temps à faire ça. Et j'étais dans le contrôle souvent. Et il s'avère que ma position aujourd'hui au Centre des jeunes dirigeants en tant que président national me prend 2 à 3 jours par semaine et m'oblige à sortir de mon entreprise et à ne pas être présent. Et le fait d'avoir été obligé de faire ça m'a permis de ritualiser des choses et de gagner beaucoup en efficience. Et tu te rends compte que ce n'est pas parce que tu arrives tôt le matin au travail et que tu pars tard que tu vas être plus efficient qu'un autre. Et donc, ça force à se remettre en question et de donner l'impulsion. Et forcément, tu lâches prise à un moment donné. De toute façon, tu es contraint de le faire. Et j'ai pourtant eu plein d'exemples avant, mais sans y avoir été confronté, tu vois, je ne l'avais pas mis en place parce que j'avais toujours eu l'impression que c'était bien de venir au boulot, c'était exemplaire, etc. Mais en fait, l'exemplarité, elle n'est pas là. L'exemplarité, elle est juste d'être là quand il faut. Et puis de faire en sorte de regarder à la fin, d'avoir quelques indicateurs de performance.
Puis de savoir que tu es derrière, peut-être un soutien. C'est-à-dire que les salariés sachent que même si tu n'es pas là à 8h le matin, mais s'il y a quelque chose, tu es là.
Et oui, mais parce que moi aussi, j'ai des enfants et ça décomplexe aussi. Ce métier qu'on a tendance à sacraliser, qui est chef d'entreprise, avant d'être chef d'entreprise, je suis père de famille et j'ai aussi une organisation personnelle. J'ai aussi des loisirs et j'ai aussi le droit à vouloir faire tout ça. Et donc l'exemplarité, elle est plutôt dans le fait d'arriver à prendre du temps pour soi parce qu'on ne peut pas mettre une économie au service des femmes et des hommes et ne pas se l'appliquer à soi-même. Et donc il y a une notion d'exemplarité. Et même si ce n'est pas facile à faire, je pense qu'il faut vraiment garder ça en ligne de mire.
Dans ce podcast, on a une question qu'on aime bien poser parce que c'est un peu l'histoire de notre aventure aussi, nous, entrepreneuriale. C'est-à-dire que on a construit cette entreprise, cette marque, notre projet avec différentes étapes, différents chemins aussi pour un objectif final qui est évidemment de vivre pleinement de cette entreprise pour nous. Et donc, on aime bien poser à nos invités la question de « Et toi, comment vois-tu ton demain ?» Donc là, on a évoqué ça tout à l'heure, tu viens de passer 2 ans de mandat président du CJD, tu as ton entreprise à gérer, ton mandat il va s'arrêter là. Donc c'est quoi du coup tes projets pour demain ?
C'est une excellente question et j'ai les réponses.
Waouh ! Et ça c'est cool parce que c'est pas évident.
Tu veux que je te le dise ?
Bah oui !
Je vais te le dire.
C'est un scoop ou pas ? Est-ce qu'on a l'exclusivité mondiale ?
J'en sais rien, mais oui, en tous les cas c'est assez surprenant. Mais... En fait, effectivement, cet engagement en tous les cas est très prenant, est très chronophage et peut faire prendre peur. Et je le regardais pas trop jusqu'à maintenant parce que c'est aussi intellectuellement très enrichissant. Et je me dis, mais comment est-ce que je vais pouvoir bien continuer à m'investir dans quelque chose qui puisse me nourrir au quotidien ? Et il s'avère que j'ai discuté avec pas mal de gens, je commençais à faire des listes, tu vois, des choses de plutôt tourner sur moi, de faire des choses...
Ah, c'est marrant, c'est comme un peu comme un départ en retraite presque.
Bah,
tu te poses la question de ce que tu fais après.
Peut-être.
Mais
oui, en tous les cas, ça se prépare.
Ouais,
mais j'ai pas voulu le préparer, moi, trop, et puis parce que c'est des mandats courts, et puis donc tu essaies d'aller jusqu'au bout. Et le préparer, ça raccourcit
déjà,
pas en fait
ouais,
le truc,
ouais.
Mais tu te dis, bon, bah voilà,
c'est déjà vers,
c'est
la,
déjà
fin,
aller
quoi.
Vers la fin.
Ouais.
Quoi. Et donc, je commençais à regarder les engagements, tu vois, divers et variés, d'aller m'investir dans la chambre de commerce, au MEDEF. Les vraies questions en fait que je me suis posées, c'est qu'est-ce que je cherchais à fuir avec ces engagements. J'avais le syndrome un petit peu de l'agenda rempli, tu vois. C'est-à-dire que moi, une période vide sur un agenda, une demi-journée vide, c'était un peu la panique pour moi. Quand j'ai plus beaucoup de mails, tu vois, c'est un peu la panique parce que je ne sais plus trop ce que je vais faire. Et à un moment donné, j'ai essayé de me poser les questions de savoir, mais c'est quoi le sens en fait de remplir ? Remplir pour remplir, à quoi ça sert ? Et ce que je décide de faire aujourd'hui, c'est d'aller vers la béatitude. Et la béatitude, c'est d'apprendre à faire rien. Et ça va être l'un des plus gros challenges de ma vie. C'est que je pense que pour percevoir vraiment ce que la vie nous offre de plus beau, je pense qu'il faut apprendre à ses yeux, à sa tête, à son corps, à ses ressentis, d'aller travailler sur finalement ce que le monde nous apporte de vrai. Et ça va être compliqué pour moi d'apprendre à faire rien. Mais vraiment, si j'y arrive,
surtout que du coup, t'as le temps du coup de te poser des questions sur ce qui convient pas. C'est compliqué ça parce que quand tu fais rien, tu te poses des questions sur toi et tu te dis ok, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce que je vais faire justement demain.
Ouais.
Ça c'est un vrai enjeu. Hein.
C'est un vrai enjeu. Et je crois qu'en tous les cas, ça peut être inspirant pour un certain nombre d'entre nous, et notamment de se poser la question des excès du monde aujourd'hui. Les excès du monde aujourd'hui sont conduits au fait d'aller en surconsommation tout le temps, d'aller chercher le plaisir ailleurs, d'aller chercher la satisfaction dans des choses qui ne sont pas vraiment vraies. Et on revient sur l'humain encore une
fois.
Non,
mais c'est sûr.
Les choses ne pourront pas compenser à aucun moment.
Sur l'image plutôt que sur le fond, en fait.
Ouais, c'est ça. Et ça ferait vraiment du bien à tous nos enfants qu'on puisse faire évoluer le système éducatif pour aller plutôt apprendre le savoir-être que le savoir-faire. Et on peut regretter. Moi, je regrette en tous les cas que ça n'évolue pas, mais qu'on apprenne aux gens vraiment ce que c'est que la vie pour de vrai. Et donc voilà. Mais tout est fait pour nous détourner de ça au quotidien. Et j'ai tendance à vouloir aller chercher ça. Et puis, j'y fais beaucoup de lectures. Je pense à Sébastien Boller, Le bug humain, qui est quelque chose de très inspirant sur le fait de dire mais qu'est-ce qui nous entraîne aujourd'hui à surconsommer en permanence et aller chercher toujours la satisfaction dans le plus, le plus, le plus. Eh bien, je pense que l'enjeu de l'humanité, c'est d'apprendre à la sobriété heureuse et de faire en sorte de se contenter du moins.
Mais ça veut dire de profiter aussi de ce que tu as autour, donc les gens, les rencontres, la richesse que tu as à rencontrer des personnes plutôt qu'à acheter ou à posséder.
Exactement.
C'est ça.
Et c'est d'ouvrir son cœur et d'aller plutôt vers les ressentis plutôt que le contrôle. Alors, je suis un grand handicapé, moi, du ressenti, mais j'y travaille. Et c'est du...
Mais c'est quelque chose... Alors là, je vais faire la fille, mais c'est quelque chose de plutôt masculin, ça. C'est aussi quelque chose d'éducation. On a souvent élevé... Alors, c'est caricatural, hein, mais je trouve que ça se voit encore aujourd'hui. Élever les garçons, justement, là-dedans, dans la maîtrise, le contrôle, parce que quand on a un petit garçon, on ne pleure pas quand on se fait mal, ou parce qu'il faut être fort, il faut porter la famille, enfin, voilà. Et les filles s'autorisent plus... En tout cas, on autorise plutôt les filles à travailler sur le ressenti, parce que, voilà, il faut faire attention à l'autre, faire des efforts, être empathique. Et alors, c'est dommage, parce que finalement, il faut certainement un peu des deux, mais c'est difficile, je pense... quand on grandit après en tant que garçon, de se dire « Ah, maintenant, il faut que je m'autorise peut-être à ressentir » ou à ne pas être cette force totalement invincible qui est capable de tout affronter sans jamais être touchée de rien.
Ouais. Et ouais, on pourra en parler des heures encore, ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, ouais, à mon avis, ça. Tellement c'est passionnant, sans doute, mais qui met en évidence effectivement ce que tu dis. Voilà, peut-être l'image du genre et l'image du garçon qui est travaillé à l'école. Mais moi, je me rends compte aussi que de manière professionnelle, ça génère des choses positives hein, sur la carrière, mais ça génère aussi un certain nombre de traumas qui sont importants, à mon avis, de conscientiser à un moment donné et puis de trouver des solutions qui permettent d'évoluer au milieu de tout ça et d'aller chercher ses émotions. Et donc, voilà, moi, je suis programmé pour aller chercher un bon de commande et pour être plutôt focalisé sur la destination que sur le voyage. Tout l'enjeu, c'est de redonner de l'importance au voyage plus qu'à la destination.
Au chemin.
Exactement, au chemin.
Merci, Aymeric.
Merci, Charlotte.
On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.